بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم سندخل في الحديث 38 qui est le 38e hadith qui nous fait rapport aux relations entretenir avec les awliyés d'Allah, les alliés d'Allah, et également que les actes préférés auprès d'Allah sont les l'application des obligations, et que la multitude d'actes surrogatoires amène à ce que Allah t'accorde le succès dans tes paroles, actes, et dans tous tes sens, c'est-à-dire que ce soit l'ouïe, la vue, le toucher, et ainsi de suite. Naam. Également, le Shir a cité dans ce hadith une partie supplémentaire qu'on ne va pas... On ne va pas développer, on va juste se contenter du hadith d'origine qui est connu dans le matn de Arba'in Nawawi. Cette ziyada, inshallah, on va la laisser. Donc il dit: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخرد حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعذاني لعذنه، وما ترددت. Que l'imam Abu Khari, rahimahullah ta'ala, a apporté un hadith d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté de son Seigneur, c'est-à-dire là c'est un hadith Qudsi. Que Allah tabaraka wa ta'ala a dit que celui qui s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et que mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et que si je l'aime, alors je saurai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche, et son pied par lequel il marche. Et que s'il me demande, je lui accorderai. Et que s'il recherche refuge auprès de moi, alors je le refugerai. Ou je l'abriterai. Non. Donc là, on voit que c'est un hadith qui, comme tous les autres hadiths, est azim, contient un grand sens. Que le chef va expliquer qui sont les walis, le sens du mot wali, et l'importance d'appliquer les actes obligatoires, et les bonnes suites pour celui qui accomplit une grande quantité d'actes surrogatoires. Le khayl qui en découle. Donc il dit: قوله من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. Celui qui offense un de mes alliés, je le déclare à la guerre. هذا كلام الله عز وجل فالحديث قدسي. Comme nous avons dit, cela est une parole d'Allah. C'est la parole d'Allah, c'est un hadith qudsi. وأن من عادى وليا من أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. طيب. Et il dit que celui qui s'en prend à l'un des alliés d'Allah, que Allah lui déclare la guerre, comme le dit le hadith clairement. Et que le wali, ce qu'on traduit par ali en général, C'est celui que Allah cite dans son livre. Il en donne la définition. Il dit, tabaraka wa ta'ala, « Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. » Dans le sens, n'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle crainte sur eux, et qu'ils ne soient pas attristés. Ils sont ceux qui ont cru, et qui ont fait preuve de piété, qui ont craint. فالولي لله والمؤمنون المتقي بنص القرآن سواء كان أعجميا أو عربيا أو رجلا أو امرأة أو حرا أو عبدا ما دام مؤمنا متقيا لله فهو من أولياء الله. Donc le wali, quelles sont ses caractéristiques? Déjà c'est un croyant. Ça veut dire que le kafir ne peut pas être un wali. C'est pas possible. Et deuxièmement, que c'est un pieux. Donc le fajir, le pervers, le débauché, le désobéissant, hein, ne fait pas partie des alliés d'Allah, c'est-à-dire les rapprochés. Il dit, comme le prouve hein, le Coran. Et les ulama le disent, c'est ça le wali, c'est le mu'min et le muttaqi, c'est le croyant pieux, c'est celui-là l'allié d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse d'un non-arabe, ou d'un arabe, ou d'un homme, ou d'une femme, ou d'un affranchi, ou même libre, ou d'un esclave, tant qu'il est croyant et qu'il craint Allah, qu'il est pieux, qu'il est muttaqi, alors il fait partie des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. A savoir que le statut des alliés diffère. Certains sont de niveau plus haut que d'autres, bien sûr. Car même la taqwa diffère. Tu peux être pieux et quelqu'un peut être plus pieux que toi. Tu peux être un mu'min, un croyant, et quelqu'un a une foi plus grande que la tienne. Donc plus la foi est grande et plus la piété est grande, et plus le rapprochement a lieu. Et que les traces de l'amour d'Allah sur ce wali seront flagrants. Wa qala ta'ala, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Donc il dit que Allah est l'allié de ceux qui ont cru, il les sort des ténèbres vers la lumière. Et que ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le tarout, qu'ils les sortent de la lumière pour les ténèbres. Et ceux-là sont les gens du feu, où ils y seront éternellement. Donc ce verset également vient pour démontrer clairement que les kuffars ne sont pas parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna bani fulanin laysu bi awliya li. إنما ولي الله والصالح المؤمنين. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les fils d'un tel, en parlant d'une tribu, de gens particuliers, ne sont pas mes alliés. Mais simplement mon allié c'est Allah ainsi que les croyants vertueux. Donc même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qui sont ceux qui sont ses alliés à lui par rapport aux créatures. Que ce sont les croyants pieux. D'accord ? Les croyants pieux. فالمؤمن ولي الله. Donc le croyant est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا عداه أحد فقد حاربه الله عز وجل. بقوله آذنته بالحرب. أي أعلمته وأخبرته من باب قوله تعالى فأذانوا بحرب من الله. Donc il dit que celui qui s'en prend à un de ses alliés, que Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. D'accord ? Il l'annonce, il le déclare clairement. Comme dans sa parole, dans le sens, pour ceux qui prennent de l'argent du riba, où il dit que la guerre d'Allah leur est déclarée. C'est-à-dire ceux qui mangent du riba également rentrent en guerre avec Allah. Dans le sens, quand on dit qu'ils rentrent en guerre avec Allah, c'est qu'ils désobéissent et que Allah leur déclare la guerre. Car il n'est pas possible, bien entendu, qu'un serviteur, une créature, fasse la guerre à Allah. Hein? Wal'adhu billah, cela n'est pas possible. Le sens voulu par là, c'est qu'il sont, c'est-à-dire qu'il enfreint les limites d'Allah et que de là, Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Et le sens également, attendez, ça va venir. Donc il dit, wa qabla hadha ta'lamu anna adha al-mu'min 'azimun 'inda Allah 'azza wa jalla. Qala ta'ala والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا واثما مبينا. Et avant tout cela, toi tu sais déjà que l'atteinte portée aux croyants est une chose énorme auprès d'Allah. Car dans le sens, il dit que ceux qui s'en prennent aux croyants et aux croyantes sans droit, sans qu'ils ne le méritent, alors ils auront certes porté un grand péché. Ceux qui s'en prennent aux croyants et aux croyantes de façon illégitime subiront par cela, porteront par cela un grand péché. De là vient le fait que il se peut que un croyant s'en prenne à un autre pour des raisons, par exemple, de dunya. Hein, de dunya. Tant que cela n'amène pas au dégoût et à la haine entre eux, du fait qu'ils soient croyants ou quoi, cela ne s'applique pas forcément dans ce hadith. Cela ne s'applique pas forcément dans ce hadith. Et cela est ce qui a été cité par Cheikh Saleh al-Sheikh, où il dit que vous pouvez trouver que cela a été vu, que même chez les Sahaba, il y a eu des litiges entre eux, il y a eu des conflits, on va dire, des désaccords. Mais cela n'a pas apporté, n'a pas mené à ce qu'ils se détestent ou qu'ils se nuisent les uns aux autres. Non. Des désaccords, et lors des désaccords, comment est-ce qu'ils agissaient? Ils revenaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui réglait le problème, directement. Car personne n'est à l'abri, aussi pieux soit-il. Le serviteur n'est pas à l'abri de rentrer en désaccord avec son frère. Tant que cela ne mène pas à suivre des comportements non légiférés, comme le fait de faire le hajj plus de 3 jours, comme le fait de nuire à son honneur, de nuire à ses biens, et ainsi de suite. Là, on part dans le cas de base où il n'y a pas de raison légiférée qui amène à cela. Ensuite, il dit مَا يَجُوزُ أَذَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى بِرَائِحَةِ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ فَضْلًا عَنِ الْجُرْمِ وَالِاعْتِدَاءِ وَالْفِتْنَةِ قَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Donc il dit, il n'est pas permis de nuire aux croyants, ne serait-ce que par la simple odeur de l'ail ou de l'oignon. Vous connaissez le hadith qui dit qu'il n'est pas permis de venir dans le masjid pour celui qui aurait mangé de l'ail ou de l'oignon cru. Car cela dégage une odeur. Cette odeur ne provient pas de la langue. Ça veut dire que tu as mangé de l'oignon ou de l'ail, ça ne sert à rien d'aller courir te brosser les dents. L'odeur vient de l'intérieur, de l'estomac. Cependant, il y a des choses qui aident. Des choses qui aident à dissiper cette odeur, comme le fait de manger du persil. Le bogdonos, comme on dit. Ça, c'est un des remèdes. Celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, s'il veut minimiser l'odeur, voire même la faire partir complètement, il mange du persil, cru. Et l'eau aussi aide à faire partir l'odeur. Cependant, dentifrice, siwak, tout ça, ça ne sert à rien. L'odeur restera. Et bien sûr, ce n'est pas interdit de manger de l'oignon ou de l'ail. Si cela se trouve au moment où tu manges et que la salade vient après, mange. Et après, fais salade chez toi ou quoi. Mais il ne faut pas que cela te mène à le faire exprès, de manger de l'ail ou de l'oignon avant la salade pour rester à la maison. Ça, non, ce n'est pas permis. Mais sinon, à la base, manger de l'ail et de l'oignon, c'est permis. Ce hadith n'amène pas une interdiction. Si tu peux éviter, c'est mieux avant d'aller faire la salade. Et si vraiment le repas il est venu qu'il y a ça dedans, ben mange. Et après, tu fais salade à la maison. Mais que cela ne soit pas une coutume ou une habitude. Non. Et de là également viennent toutes les choses qui apportent des mauvaises odeurs, qui dérangent les moussalliyin, comme par exemple fumer des cigarettes. Le tabac, le fumeur, lorsqu'il a fumé une cigarette, dans les rangs de la salade, tu le sens à côté de toi. Et son odeur est dérangeante. Lui, ce hadith-là, de l'ail et de l'oignon, s'applique sur lui. Mais même la qiyas. Car la cause est la même. Et en plus de ça, il a commis le péché d'avoir fumé. C'est-à-dire, il a fumé, il s'est nué lui-même, il a dépensé de son argent inutilement, et en plus de cela, il nuit aux autres, par l'odeur qu'il dégage. Non. Donc cela en dedans. Tout ce qui dégage une mauvaise odeur, comme ça, le masjid, les salat al-jama'a sont à éviter. Ensuite, il dit, donc, qu'il n'est pas permis de nuire aux croyants, ne serait-ce que par ces simples choses qui sont le fait de manger de l'ail ou de l'oignon, de l'odeur qui s'en dégage, alors que dire, hein, de commettre des crimes, de faire preuve d'animosité envers lui, ou de lui creuser des problèmes, injustement. Il poursuit en disant, كل ما يؤذيه محرم سواء كان جارا أو غير جار ما دام مسلما بغير ذنب تؤذيه ما يجوز إنما إذا أذي الإنسان بحيث أنه حصل منه ما يستدعي ذلك الأذى. Donc il dit tout ce qui amène à nuire aux croyants, cela est interdit. Qu'il s'agisse de ton voisin ou autre. Tant qu'il est musulman et qui n'a rien commis qui amène à ce qu'il subisse des offenses, cela n'est pas permis. Par contre, des fois, il se peut que les musulmans commettent des choses qui amènent à ce que cela se retourne contre lui. Des conséquences de ses actes se retournent contre lui. Ça, c'est autre chose. On l'a cité au début. Là, on parle de quoi? Des nuisances, des atteintes sans droit. D'accord? Sans droit. Ensuite, le Shir poursuit en disant « La shak anna ou yasulu liman tatakallamu fihi aza, walakin aza bihaq. Wal aslu fil muslim hurmatu dami, wa mali, wa irdi. Hada wal asl fil muslim tahrimu dami, wa mali, wa irdi. Qal, sallallahu alayhi wa sallam, kulul muslimi ala al muslimi haramun, damuhu, wa maluhu, wa irduhu. ولكن بأدلة أخرى يتكلم في من أتى بمن بما يعيش به المسلمين ويخون به المسلمين من باب الجرح الذي قد أجمع عليه أهل العلم للنصيحة وننبه على أن كثيرا من ننبه على هذا كثيرا من باب أن بعض الناس تلتبس عليه أدلة الجرح بأدلة حرمة عرض المسلمين بأدلة حرمة عرض المسلم فلا يجمع بينهما أو بينها يأخذ بجانب ويترك جانبا وهذا خطأ. Donc il dit, il ne fait pas de doute que tu subiras des nuisances de la part de ceux sur qui tu parleras. Mais là on parle des gens sur qui tu parles véritablement, en tout droit, comme les gens qui nuisent aux musulmans. Car l'origine chez le musulman, c'est que son honneur est sacré et interdit. Tu ne parles pas sur lui. Ni ses biens. Hein, ni son sang. Comme cela est dans le hadith, que tout musulman est interdit sur tout musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Cependant, d'autres preuves sont venues qui spécifient que dans des cas particuliers, tu peux parler sur le musulman. Mimbab al-Nasiha, en guise de conseil. Comme nous l'avons dit, comme sur le Fahazir, ou le trompeur, ou le traître, ou l'innovateur. Ces gens-là, il faut clarifier leur situation à la Oumma pour ne pas qu'ils se fassent duper. Car cela revient à mettre leur religion en jeu. Dans ce moment-là, il faut parler sur eux. Cela est même obligatoire. Car il dit, le Shir, qui lui évoque souvent ce point, souvent il réitère ce point, du fait que beaucoup de gens, ils sont confus dans la situation. Ils pensent que l'on ne parle pas sur le musulman dans l'absolu. C'est-à-dire qu'ils prennent des preuves sur l'interdiction de parler sur le musulman, du riba, ou ainsi de suite, ou de cacher ses défauts, et délaissent ces autres preuves, celles qui amènent à inkar et munkar, et al-nasiha, hein, et celles du fait de bayen le hal des gens. Donc ils disent ça, c'est une erreur de leur part. Quand tu prends les preuves, tu les prends toutes. Et chacune, tu la places dans son contexte. Quand il faut se taire, ce qui est la base, tu te tais, tu ne parles pas sur ton frère, injustement. Quand c'est des péchés, comme nous l'avons dit dans le hadith, qui sont entre lui et son Seigneur, des choses qu'il n'use pas aux gens, tu le caches, mais tu le conseilles. Hein? Quand il commet des péchés, toi tu es au courant, mais que ces péchés ne sont qu'entre lui et Allah, que lui se cache quand il les fait, que toi tu étais mis au courant, tu conseilles ton frère et tu le dissimules, tu le caches. Et que si par contre son mal venait à déteindre sur les gens et que cela aurait des conséquences sur autrui, alors lui, tu dois clarifier sa situation aux gens pour qu'ils évitent son mal. Non. Donc tout cela est à prendre en compte. Il poursuit en disant, Koluhu, wa ma takarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya bima aftaradtu alayh. Que mon serviteur ne s'est pas approché de moi d'une chose plus aimée auprès de moi que ce que je lui ai imposé, c'est-à-dire je lui ai rendu obligatoire. Ma'na hadha anna a'zama ma yatakarrabu bihi al-'abdu ila Allah hiya al-fara'id. فالفرائض محبوبة إلى الله أكثر من النوافل والفريضة يقال لها مستحب من هذا الباب من حيث أن الله تعالى يحبها أكثر من غيرها من النوافل. Donc il dit que cela implique, qu'est-ce que cela veut dire? Que la chose la plus grande par laquelle on s'approche d'Allah, que le serviteur s'approche d'Allah, c'est en appliquant ce que Allah lui a imposé. Les actes obligatoires sont aimés auprès d'Allah bien plus que les surrogatoires. Et que également, les farida, les obligatoires, on les appelle recommandés. Car ils sont recommandés. Ils sont obligatoires et même recommandés. Par rapport à ça, du fait que Allah les aime. Et également, les faraïd, cela implique quoi? Cela implique d'appliquer les obligations et de délaisser ce qui est interdit, bien entendu. Tout cela rentre dedans. Al-fara'id, c'est appliquer ce qui t'est rendu obligatoire et de délaisser ce qui t'a été interdit, ce qui est proscrit en religion. Cela rentre dans al-fara'id. Et cette partie du hadith, elle, est une preuve que nous citons souvent contre les gens qui délaissent des actes obligatoires et s'élancent dans des actes qui, à la base, pourraient être recommandés, en laissant les actes obligatoires, et s'imaginant en faisant cela qu'ils font du bien. Sheikh Fawzan lui dit, et critique cela, il parle surtout des soufias, ce genre de personnes, qui eux, tu les vois dans les actes surrogatoires avoir une grande concentration, fournir de grands efforts, et faire preuve de négligence dans ce qui leur est rendu obligatoire. Il se peut que tu vois par exemple un imam, les salat fara'id, par exemple pour les salat obligatoires, il va te les faire vite et mal. Et ne pas respecter par exemple les vrais sunnah. Et lorsque tarawih il va arriver, par exemple, il va te faire un tarawih dans lequel, à la fin, il va clôturer sa salat par au moins une demi-heure de dua. Peut-être les dua sont plus longs que les rakat qu'il a fait. Par exemple. Et tu ne le verras pas pleurer en écoutant le Coran lors des salawat, et tu vas le voir pleurer, se vider de larmes lors des doigts. Ça, c'est Shaitan qui joue avec lui. C'est Shaitan qui joue avec lui. Il faut faire attention à cela. Que des gens se concentrent plus sur des actes surrogatoires que des actes obligatoires. Et d'une autre partie, tu en as certains, comme par exemple, nous le citons aussi également souvent, ceux qui veulent instaurer des jam'iyat, des associations. Et là, on parle de particulièrement de ceux qui sont pays de kufr, comme la France, la Belgique, l'Angleterre, ainsi de suite. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien défini que les actes obligatoires lui sont préférés, ce qu'il préfère. Donc, toi, il est normal. Tu veux quoi? Tu veux obtenir ce qui agrée Allah. Donc, quelqu'un qui est logique, qui réfléchit normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire prédominer ce que celui dont il cherche l'agrément préfère. Il n'y a pas de doute. Pour obtenir son amour. Si vraiment il est sincère, qu'il recherche par Allah l'amour d'Allah. Quand on est en pays de kufr, dans lequel on ne peut appliquer sa religion, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire? Il nous a rendu obligatoire la hijra, de partir. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé de nous occuper des gens. Hein? De nous sauver nous, nos personnes et nos familles. C'est ça la principale obligation, la première obligation, la prioritaire. Que tu te sauves toi, toi et ceux qui sont à ta charge, si tu le peux. Et on voit des gens qui restent là-bas, tombent dans je ne sais pas combien d'interdictions, de transgression de la religion, et rajoutent à cela des innovations. Par exemple, ils vont faire une association pour te dire on veut faire des mosquées, on veut faire venir des prédicateurs, on veut faire ceci, on veut faire des cours, on veut faire ceci, on veut faire cela. On lui dit, Tayeb, tes prédicateurs que tu fais venir, c'est quoi le but de leur venue? Qui t'enseigne, n'est-ce pas? Ils vont te dire oui. Et ce qui t'enseigne, est-ce que tu vas l'appliquer par la suite? Parce que c'est bien d'accumuler, d'entendre des belles muhadara, des belles conférences, des beaux rappels, de dire, cher Foulen, il est chez nous, cher Foulen, il va faire ceci. Mais est-ce que la fidèle, ce que le chien va te dire, tu vas l'appliquer? Le chien, s'il vient, à la base, il vient pour te conseiller, t'indiquer, te dire quoi faire pour que tu évolues de bonne façon dans ta religion. Et que si ce chir est vraiment clairvoyant, il verra le pays dans lequel tu vis, il te dira, faut pas que tu restes ici. Donc s'il te le dit, est-ce que tu vas écouter ce qu'il va te dire? Et tu les vois, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Car eux, leur but quand ils font ça, c'est quoi? C'est d'attirer les gens vers eux. Vous voyez? Ils restent là, ils montrent, soi-disant, qu'ils font des efforts pour la darwa, mais en réalité, ils font penser à quelqu'un qui serait assoiffé et qui se mettrait à boire de l'eau contenant du poison. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Donc ces associations-là, tu les vois faire des quêtes, envoyer des mails partout, faites un don, faites un don, faites un don pour la mosquée untel, faites un don pour la venue du chir untel, faites ceci, faites cela. Est-ce qu'ils font un don, faites un don par exemple pour aider un tel à faire la hijra? Ils ne vont pas le faire. Est-ce qu'ils vont dire faites un don par exemple pour aider un tel ou un tel qui sont, par exemple, au pays d'Islam? Non, ils ne vont pas le faire. Est-ce qu'ils vont te dire, faites un don, par exemple, pour mettre en place des structures qui facilitent la sortie des frères, car cela leur est obligatoire? Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Même si cela ne leur est pas obligatoire, car à la base, tu t'occupes de toi-même et de ceux qui sont à ta charge, car comme on le dit, la mosquée qu'ils font, quel est le hal de cette mosquée? Comme on leur a déjà dit, on les défie d'aller sur le minbar, de faire une khutba et de parler sur le christianisme. De dévoiler la mécréance des chrétiens. De dévoiler la mécréance des juifs. De dévoiler les méfaits de la démocratie, de la laïcité, et ainsi de suite. On les met au défi de faire cela. Ils ne pourront pas le faire. Et même s'il y a un derrière qu'ils appellent, par exemple, qui vient de Saoudi, du Yémen, ou de je ne sais où, parmi les pays d'islam, qui vient pour appeler à l'islam, lui-même ne pourra pas le faire. Cheikh Jamil, Hafizallahu Ta'ala, est parti en Algérie. Du simple fait qu'il ait parlé sur les élections, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont mis en prison. Hein, ils l'ont mis en prison. Parce qu'il est venu, il a dit la vérité. Et quand bien même, il nous a été raconté que lors de son procès, le juge, je crois, c'était une femme. Quand elle lui parlait, il tournait le dos. Et il citait le hadith, l'anyaflahkoumoun wallamraatan. Qu'un peuple qui a mis une femme au pouvoir ne réussira pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que cette femme juge, elle a mal pris, ça l'a hérité. Donc quelles ont été les conséquences? Une peine dure. Il a été mis en prison. Comme un vulgaire criminel. Du fait qu'il ait dit quoi? Qu'il ait dit la vérité. Donc croyez-moi bien que ces prédicateurs qui viennent en France, s'ils parlent comme ils doivent vraiment parler, dans une mosquée, dans une salle de conférence, par le biais d'une association, c'est-à-dire de façon officielle, les autorités sont au courant de cela, croyez-moi bien qu'ils ne vont pas laisser parler. Donc eux-mêmes sont amenés à quoi? À faire attention à ce qu'ils vont dire. Donc que dire de celui qui vit là-bas? Donc de là, nous disons ces gens-là, si vous êtes vraiment sincères, vous voulez vraiment faire du bien pour la Umma et pour vous-même, commencez par, et que vous voulez obtenir l'agrément d'Allah, donc déjà commencez par appliquer ce qu'Allah vous a rendu obligatoire. Et cela mettra en cause votre sincérité. Si vraiment vous voulez Allah, ou si vous voulez autre chose. Et ça, je ne parle même pas du fait que les djemariyas sont une innovation. Alors que dire du fait que de faire passer un acte qui n'était pas rendu obligatoire et que cet acte-là n'est même pas légiféré? Ou comme des gens aussi, par exemple, qui veulent dire, ils disent, moi, je veux aider les musulmans qui sont en France ou en Belgique ou en Angleterre à récupérer leurs droits lorsqu'ils sont lésés par rapport aux autorités. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais me raser la barbe, je vais mettre en costard-cravate et je vais rentrer dans les organisations des koufars en vue de quoi? D'être un moyen de défense pour les frères. Allah t'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est une chose dans la religion qui n'a pas été demandée. Regardez bien les NBA comment ils réagissent. Le jour de l'intercession, lorsque tous les gens vont venir les voir, de Adam à Nour, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour intercéder. Hein, ils vont dire quoi? Ne vois-tu pas dans quoi nous sommes? Ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? Qu'est-ce qu'ils vont dire les prophètes? Ils vont dire nefsi, nefsi. Moi-même d'abord. Que mon Seigneur s'est mis d'une colère comme il s'est jamais mis en colère auparavant. Et que moi-même j'ai des choses à me reprocher. Donc allez voir le prophète untel. Les prophètes eux-mêmes n'ont pas fait cela. Ils pensent déjà à leur personne, à eux. Yom al-Qiyama. Toi t'es meilleur qu'eux. Au fait de te mettre à appliquer des désobéissances pour aider les frères. Ça c'est un héroïsme, on le voit que dans les films à la télévision. En islam ça n'existe pas ça. Je me sacrifie moi. Chaque film en religion prend des péchés pour les gens. En islam, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été fait. On l'a même déjà dit. En islam, en min haythul ibadah, par rapport aux adorations, il faut que tu sois avare. Tu ne donnes pas tes hasanettes aux autres. Tu peux les partager du fait que ce que tu fais en bien, tu as les gens offerts, mais toi, tes hasanettes, tu ne laisses personne te les prendre. Le simple fait de laisser le premier rang à quelqu'un, tu n'as pas à le faire. Par charité. Toi, t'es au premier rang, t'es arrivé tôt, mashallah, à la salat, t'es le premier rang. Et derrière toi, il y a quelqu'un qui veut le premier rang. Tu dis, vas-y mon frère, prends le premier rang. Ça, en islam, ça n'existe pas, ça. T'es là, t'es arrivé pour avoir le premier rang, prends-le. Le Nabi Salam nous a incité à courir pour prendre le premier rang. Pas le de nous aux autres. Ça, c'est pas une bonne compréhension. D'accord? Alors, que dire de quelqu'un qui va faire des péchés pour pouvoir, soi-disant, sauver ses frères, aider ses frères? Ça n'existe pas, ça. Donc les gens ne savent pas avoir par shaitan et se faire enjoliver leurs actions en croyant qu'en faisant ce qu'ils font là, ils s'approchent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est de jahl, c'est de l'ignorance pure. Donc alaykoum bi talab al-ilm, d'apprendre la science auprès des gens de science, afin de pouvoir justement distinguer dans ce genre de situation. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce qui m'est prioritaire? Qu'est-ce que je peux retarder? Et ainsi de suite. Naam, ça c'est un tanbih. Quand même. Et également, cette partie du hadith réfute ceux qui prétendent que des gens, on parle des apparents, du côté apparent, on ne connaît pas les cœurs, c'est lui qui les connaît, que des gens, par exemple, qui en apparence sont, comme on l'a dit, on va en pantalon, en chemise, rasé, sont meilleurs que des frères salafis. C'est possible qu'au fond, cette personne-là, dans les échanges avec les gens, soit plus agréable, soit plus douce, soit plus poli, et ainsi de suite. Et que salafi, tu peux trouver chez lui de la rudesse, des fois, un frère, il s'énerve vite, c'est possible. Ou des fois, il y a encore un peu de lui du passé qui reste, des fois, il prononce des mots dans la colère qu'il n'aurait pas dû prononcer. C'est des fautes, des allèles, comme on dit, des dérapages. Mais ce salafi-là, déjà dans son côté apparent, il aura appliqué ce qui lui est rendu obligatoire. En commençant par lui. Et le hadith, on a pris le hadith de Norman Bashir, Allah fil jasad, inna fil jasad mudratan. Il disait, salahat jasad kulluhu. Ou il disait, fasadat jasad kulluhu, Allah wa yal qalb. N'a-t-il pas dans le corps un bout de chair que si jamais il se réforme, tout le reste du corps sera réformé. Et que si jamais il se pervertit, tout le reste du corps sera perverti. N'est-ce pas le cœur? Et dans le hadith d'Abi Huraira, rapporté par un musulman, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yanzuru ila ashtamikum wa la ila suwadikum, wa la kin yanzuru ila kulubikum. Wa fi riwaya ila a'malikum. Que Allah ne regarde pas vos corps, ni votre corpulence, ni votre image, mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Et dans une autre version, il regarde vos œuvres, vos actes. faut pas prendre le hadith en une partie d'essayer le reste, en disant moi j'ai un bon fond, lui il a un bon cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Non, je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, c'est vrai. Mais ce qu'il y a dans son cœur va se refléter sur son corps. Hein? Le contenu de son cœur va se refléter sur son corps. Et moi, son corps, ce qu'il me montre là, il me montre des obéissances. Donc forcément, moi, en tant qu'être humain, je juge selon mes apparences. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, mais son apparence me définit qu'en lui, il y a un problème. Car s'il y avait son intérieur était bien comme il faut, cela réapparaîtrait sur son extérieur. Donc ne pas se faire avoir par ça aussi. Un tel, il est gentil, il est poli, il a un bon comportement. Naam. Mais le premier comportement à avoir, c'est celui entre toi et Allah avant les gens. Et que si jamais tu es sincère entre toi et Allah, alors cela également réapparaîtra chez les gens. Bien que tu n'es pas infaillible de commettre des fautes, d'avoir des humeurs, d'avoir des colères, d'avoir des comportements ou des attitudes à des moments qui ne sont pas convenables. Ça arrive à tout le monde. On a sallallahu yarfou anna. On l'a pas dans le hadith. Yabn ya ibadi, innakum turti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous ne cessez de vous tromper de jour et de nuit, de commettre des fautes. Et moi, je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon, et je vous pardonnerai. On est amené à commettre des fautes. Cela n'implique pas qu'on doit faire exprès. Mais commettre des fautes, si on demande pardon à Allah et qu'on fait en sorte de ne pas recommencer, Allah, Inch'Allah, nous pardonne. Bani Adam, Banu Adam, les sous-malaïka. Les fils d'Adam ne sont pas des malaïka, ne sont pas des anges. Ils ne sont pas infaillibles, ils sont amenés à commettre des fautes. Et de l'autre côté, ne pas non plus fermer les yeux sur toutes les fautes. Dire, on est tous, personne n'est parfait, on fait pas des, tout le monde fait des erreurs. Cela ne doit pas non plus emmener à se taire sur toutes les fautes. Il y a des fautes, il faut les dénoncer. Il y a des fautes, il faut les blâmer. En islam, il y a des sentences qui sont là pour certains péchés. Comme le fait de voler, on coupe la main du voleur. Comme le fait de faire zina, on coupe la main, on lapide, on fouette celui qui fait zina. Celui qui prend de l'alcool, on le fouette. D'accord ? Celui qui ne prend pas la, qui paye pas la zakat, on lui prend son argent de force. Celui qui accuse un musulman d'avoir fait zina sans avoir mis 4 témoins, on le flagelle. Et ainsi de suite. L'islam, c'est le juste milieu. Ce n'est pas rien ni tout, c'est le juste milieu. Donc ne pas oublier cela. Ensuite, il poursuit en disant, par rapport au hadith, « Qoluhu » وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلَ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. يعني من صلاة وصيام وحج وعمرة وغير ذلك مما هو نافلة ليس بواجب حتى أحبه. Donc il dit qu'il s'agit des salats, du siyam, du hajj, de la umra, tout autre parmi les choses qui ne sont pas rendues obligatoires. Hein, tout ce qui n'est pas obligatoire. Jusqu'à ce que je l'aime, comme il dit. Jusqu'à ce que je l'aime, qu'il ne cesse de faire cela. Jusqu'à ce que quoi ? Je l'aime. Dalla hadha ala an al-a'mal as-saliha dakhilatun fi musamma al-iman wa ya min asbab mahabbati Allah lil-'abd. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa huwa ghafurur rahim. Donc il dit que tout cela démontre que les œuvres pieuses sont incluses, font partie de la foi. Regardez encore, pour ceux qui disent que les œuvres ne sont que des branches de la foi. Ce hadith lui-même est une preuve encore que les œuvres pieuses font partie de la foi et qu'elles amènent à ce que Allah t'aime. Donc quelqu'un qui ne fait rien comme acte, ni même obligatoire. Ce hadith est un rogue sur les murji'a qui veulent faire croire que les actes ne font pas partie de la foi, ne sont qu'une branche ou un moyen de perfectionner la foi. Ce hadith dit quoi ? Que Allah, qu'est-ce qu'il aime ? Premièrement, que tu accomplisses ses obligations. Donc celui qui ne fait pas d'obligation, Allah il va l'aimer ? Est-ce que quelqu'un que Allah n'aime pas, il va le rentrer au paradis et lui pardonner ? Quelqu'un que Allah n'aime pas. Et de qui plus est, que son amour s'accroît et augmente pour le serviteur si celui-ci accomplit des actes surrogatoires. C'est-à-dire que même en faisant les obligations, tu auras un amour d'Allah, mais ce ne sera pas forcément un grand amour comme celui qui suit dans le hadith qu'il va t'apporter le succès et te préserver de beaucoup de maux. Alors que dire celui qui ne fait rien du tout ? Ni obligation, ni nawafil. C'est quoi son hal à celui-là ? Il dit dans mon cœur je crois, mais l'autre côté il ne fait rien. Il y en a qui disent ça, c'est istihza bid-din, c'est se moquer de la religion. Et d'autres disent ça c'est un munafiq. Hein, c'est un munafiq. Mais notre frère, Alhamdoulilah, Abdullah Al-Hadji, l'Ivoirien, a déjà donné une conférence sur le sujet pour plus de détails, pour celui qui veut écouter les favoris des Al-Miyya par rapport au fait de différencier ou de diviser entre la foi et les actes. Ensuite, il dit donc que ces œuvres pieuses sont une cause d'amour d'Allah, comme il dit dans le sens, et que si vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur miséricordieux. Donc regardez, parmi les actes, le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que cela sera une cause d'amour d'Allah et également une cause de pardon des péchés. Donc celui qui ne fait rien, qu'est-ce qu'il aura? Ni d'amour et ni même de pardon. وَمِنْ أَسْبَابِ مَحَبَّتِي اِتِّبَاعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. Donc parmi les causes de son amour, le suivi du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qui est parmi les meilleures des œuvres. قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ مِنْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Il dit, ô vous qui avez cru, que celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, que Allah viendra avec un peuple qu'il aime et que eux ils aiment. Hein, qui seront humbles devant les croyants et puissants devant les mécréants. Min asbab zalika atawadu al-mu'min. A'izat ala al-kafirin, azilla ala al-mu'minin. Hadha min asbab mahabbatillahi lil-'abd. Que parmi les causes de l'amour d'Allah, pour obtenir l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'humilité devant et la modestie devant les croyants. Hein, et la puissance devant les kuffars. Et cela revient également, quand on dit la puissance, c'est-à-dire la fierté, tu restes ferme devant eux. Et cela ramène ce qu'on a dit précédemment par rapport aux gens qui font des associations en France, en Belgique ou autre. Regardez ces gens-là, comment ils réagissent. Ils sont extrêmement durs envers leurs frères qui les conseillent. Et ils sont comment devant les koufars? Ils sont comment devant eux? Tu crois que tu vas être dur devant un kafir pour que tu ouvres une jamaïa? Tu vas être dur devant lui? Tu vas mal lui parler? Tu vas lui montrer que tu ne l'aimes pas? Ils ne pourront pas le faire. Ils sont obligés de se ramollir, de se rabaisser devant eux. T'arrives devant à la mairie d'arriver je ne sais où pour faire les démarches administratives pour pouvoir ouvrir cette association, tu seras obligé d'arriver devant lui, poli, souriant, peut-être même que il va passer le bonjour en premier, alors qu'à la base ça n'est pas permis. Hein, de passer le salam en premier au café, ça n'est pas permis. C'est truc, il va arriver dans le bureau, ça se trouve, il va être devant une femme, pour ouvrir quoi? Une jam'iyya, une association pour faire une mosquée. Donc regardez ce qu'il dit ce verset, que parmi les causes d'amour d'Allah est dû et qu'il efface les péchés pour obtenir son pardon, que tu sois humble et modeste devant les croyants, devant tes frères, et que tu sois puissant et on va dire sévère devant les koufars. Et je ne pense pas que ces gens-là appliquent ce verset pour obtenir ce qu'ils veulent. Masallallahu alayhi wa sallam. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه من حديث أنس وفي صفة المحبة لله عز وجل الثابتة بالقرآن والسنة كما يليق بجلاله. Donc il dit que, par exemple, ce hadith également, trois choses, celui qui les trouve aura goûté quoi? La douceur de la foi. Que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que quiconque. D'une part. Que la personne n'aime une personne, tu ne l'aimes que pour Allah. Deuxième point. Que tu n'aimes une personne, tu ne l'aimes que pour Allah. C'est-à-dire que les gens, tu vas leur donner, tu vas les aimer en mesure de leur piété. Plus rapide, tu vas l'aimer. Plus il sera désobéissant, moins tu vas l'aimer. Donc tu aimes pour Allah, tu n'aimes pas pour un hizb, tu n'aimes pas pour un shir, tu n'aimes pas pour une jam'iyya, tu n'aimes pas pour une maktaba, tu n'aimes pas pour une maslaha dunyawiya, pour un intérêt mondain. Tu aimes pour Allah, c'est-à-dire le suivi. Et l'obéissance, c'est la piété. Ton amour est basé là-dessus. Et troisième point, qu'il déteste retourner dans le kouf, après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté au feu. Et ce hadith-là est une preuve également pour la hijra. D'accord? Pourquoi? Que tu aimes Allah et son messager plus que quiconque. Cela t'amène à quoi? À délaisser des choses que tu aimes dans le pays de Kufr. Comme ta famille, comme tes biens, hein, tes enfants, ainsi de suite. Tout ce qui t'amène, qui te fait rester en paix de Kouf. Toutes ces choses-là, Allah et son messager sont plus aimés auprès de toi que ces choses-là. Donc tu es prêt à la délaisser pour Allah. Donc tu peux partir. Que tu n'aimes, quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. Donc les gens qui sont les plus aimés sont qui? Sont les musulmans. Les musulmans, où est-ce qu'ils sont le plus présents? Dans leur pays. Il n'y a pas photo. C'est pas à Couronne, c'est pas à Barbès, c'est pas à Marseille, c'est pas je ne sais pas où. Ils sont bien plus présents dans leur pays. Même s'il y a ce qu'il y a comme problème, et que certains ont des problèmes dans leur religion, dans leur droiture, là-bas ils sont plus nombreux. Donc quand tu cherches des gens à aimer, tu vas aller là où il n'y en a pas beaucoup, là il y en a beaucoup. C'est logique, tu vas aller là où il y en a beaucoup. Donc où est-ce qu'ils sont ces gens-là en majorité? En pays d'islam. Donc tu vas les rejoindre. Et deuxièmement, troisième caractéristique, qu'ils détestent retourner dans le couf, après qu'Allah l'en ait sauvé, comme ils détesteraient être jetés au feu. Et le couf que l'on combat, dont on a peur, il se trouve où? En pays d'islam ou en pays de couf? En pays de couf. Donc si tu as peur de ce couf, tu dois t'en éloigner. C'est logique. Donc tu pars de ce lieu où ce couf est présent. Tu pars de ce lieu où les gens qui appellent à ce couf sont présents, en quantité. Ça, c'est le contraire de l'autre partie du hadith. Donc tu pars. Car rester en paix de Kouf est parmi les causes d'apostasie. Les plus grandes causes d'apostasie, c'est de rester en paix de Kouf. Car tu vas être influencé par les gens autour de toi. Et les gens autour de toi en paix de Kouf, c'est qui? Même si tu as un groupe de frères avec toi, ils sont une minorité. Ils sont une minorité. Mais tous les jours, tu as affaire au Koufar. Donc au bout d'un moment, cela peut déteindre sur toi. Dans ton comportement, dans ta aqida, ton manhaj. Jusqu'à t'amener à quoi? À apostasie. Pourquoi, d'après vous, pensez-vous que les koufars n'aiment pas nous voir partir chez nos frères? Car ils savent que là-bas, on va se renforcer. Et que nous, on va les renforcer aussi. Wallah, je vous dis, quand un frère part d'un pays de kouf, il est muhajir, il est en pays d'islam, cela, ça les touche énormément. Cela, ça les touche énormément. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas le sous-estimer. Des gens en pays d'islam sont devenus moustakim par la cause de muhajirin. Ils se sont dit, comment? Lui, il était là-bas. Moi, je suis là, dans mon pays. Je me casse la tête pour avoir un appartement, pour me marier, avoir la dot, pour me marier, avoir une voiture, une situation. J'y arrive pas, au point que je suis obligé de me raser, de me mettre en pantalon, faire plein de péchés pour obtenir cette dunya, j'arrive pas à l'avoir. Et lui, il avait tout à portée de main. Il a tout laissé pour venir dans la misère dans laquelle je suis. Ça touche énormément, faut pas croire. Ça, c'est une dawa. Même si toi, tu n'as pas de science et tu n'as pas de tu ne fais pas une muhadara, tu n'as pas de durus, par ton comportement, par tes faits apparents, tu pourras influencer beaucoup de gens. Crois pas, les gens, ils observent beaucoup ce que tu fais. Quand ils voient que tu viens à la mosquée tous les jours, du Fajr, au Dhor, au Asar, au Maghrib, au Isha, ils se disent, mais comment il fait lui? Je ne le vois pas travailler spécialement, avoir un dukkan, avoir un commerce ou quoi. Je le vois toutes les salawat. Je le vois avec sa barbe. Je le vois avec son kamis. Je le vois ceci, cela. Je vois sa femme, elle est bien habillée, ses enfants, ils sont bien habillés. Et je le vois en apparence, il a l'air d'être à l'aise. Ça se trouve, toi, tu es grave en galère, c'est possible. À un moment de difficulté, t'as pas d'argent. Mais eux, ils voient pas ça, eux. Eux, ils voient quoi? La izzat de ta religion. Eux, ils voient quoi? La force de ta religion. Ils voient quoi? La force de ton application de ta religion. Et t'as des jaloux aussi, t'as des jaloux, t'as des soufaha qui n'aiment pas voir cela. Mais les gens qui ont bien, croyez-moi bien que cette action en soi est une dawa, sans qu'on s'en rende compte. Et également, une dawa pour ceux qui sont restés derrière. En France, ou je sais où, je ne sais où, ils t'ont vu partir, rester, résister, ça les motive. Par contre, si tu reviens, tu les décourages. Ils vont dire, ah, regarde, un tel est parti, il est revenu, bon, ben, c'est pas la peine que je parte. Si lui, il n'a pas réussi, pourquoi je vais réussir, moi? Donc, les actes sont une darwa. Donc, ce hadith-là, qu'on vient de citer, si tu as vraiment plus peur de retourner dans le couf, tout comme tu aurais peur d'être jeté au feu, quand il y a un feu à côté de toi, qu'est-ce que tu fais en général? Un incendie. Tu t'éloignes. Ta maison commence à prendre feu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dedans? Tu vas le sauver. Bilachek. Et bien là, imagine-toi, tu es dans un pays qui est en feu. Un pays qui est en feu, en flamme. Tu restes dedans? Tu t'en vas. Tu t'en vas. Donc ce hadith-là, il est même une preuve pour la hijra et un rod pour ces gens-là, qu'on en a parlé au début, qui veulent faire des jam'iyyahs, soi-disant, pour propager la religion en France. Non. Donc ce hadith également est une preuve de la sifat, l'attribut de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Que l'amour parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela lui convient à lui. Que l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour de sa créature. L'amour d'Allah n'est pas comme l'amour de sa créature. Il dit: قوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به Que si jamais je l'aime, alors je serai quoi? L'ouïe par laquelle il entend et la vue par laquelle, la vision par laquelle il voit. إلى آخره قال قال أهل العلم يوفق الله هذه الجوارح فلا يبتش إلى فلا يبتش بها صاحبها إلى خير ولا يأكل إلى خير ولا يمشي إلى إلى خير ولا ينظر إلى إلى خير إلى آخره. Donc ça veut dire quoi ce hadith là? Qu'en fait Allah t'ajuste, te réforme et t'accorde succès, comme disent les gens de science, pour tes membres qui n'accompliront que du bien, que tu ne toucheras que les choses de bien, qui t'apporteront un bien. Que tu ne mangeras que les bonnes choses, que tu te dirigeras que vers les bons endroits, et ainsi de suite. Que tu ne regarderas que les choses licites et bonnes pour toi. Et pareil pour l'écoute, pour l'ouïe, et pour le parler. Tout cela est concerné. Que par les nawafil, Allah se yuwafikuka ou se yusaddiduka. Allah va te réformer. Qawluhu wa lin sa'alani la'utiyanna. Que s'il me demandait, alors je lui donnerai. Ta'atullahi bin asbab istijabati du'a. ومعصية الله من أسباب من استجابة الدعاء كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب له. Donc il dit que l'obéissance d'Allah est parmi les causes de réponse aux invocations, contrairement à la désobéissance qui elle est une cause d'empêchement à ce que les invocations soient exaucées, comme on l'a repris dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, de cet homme qui était en voyage, aux cheveux ébouriffés, qui lève les mains vers le ciel, en disant « Yarab, Yarab », en invoquant par la Rububiyah. Cependant, sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites. Comment serait-il donc exaucé ?« Wal hadithu karsabaka bayenuhu huna » Et que le hadith, il a déjà été expliqué, dans le hadith d'Abu Huraira. Non, il faut revenir en ayah pour ceux qui le veulent. Donc il dit « هذا دليل في أن الدعاء المؤمن مستجاب فإذا قلت للمؤمن في غير الحاح ادعو لي لا مانع من ذلك لا مانع أن تقول للمؤمن ادعو لي وكره بعض أهل العلم ذلك ومحمول على الإلحاح أو التسول. » Donc il dit que le fait, cela démontre que les invocations du croyant sont exaucées. Et que si jamais tu demandes un croyant, sans non plus l'importuner ou insister sur lui, qu'il l'invoque pour toi, il n'y a pas d'empêchement à cela. Tu dis à un frère, invoque pour Dullillah, an yaftah alayya bikaza wa kaza. Par exemple, tu demandes à Allah, tu demandes à un frère qui demande à Allah pour toi, qu'il t'exauce telle et telle demande. Tant que tu ne l'importunes pas ce frère, et que tu ne prends pas cela comme une coutume, mais tu insistes, comme par exemple le font Jamaat Tablir, à l'exemple, cela est permis. Et que certains gens de science ont vu cela comme détestable, sur le fait que eux, ils visent par cela le fait d'insister, d'importuner les gens. Leur parole est interprétée. Car des preuves sont venues démontrant qu'il est permis de demander à un croyant de faire le doa pour toi. D'accord ? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à Omar ibn Abdel Khattab ? Qu'il a dit que si jamais il rencontre un croyant, c'est-à-dire c'était Ouess et Corny, qui avait les doas qui lui étaient exaucés, il a dit si jamais tu le rencontres, demande-lui qu'il te demande pardon pour toi. Car ses invocations sont exaucées du fait qu'il était très obéissant vers sa mère. Et combien de personnes ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour eux? Comme dans le hadith des 70 000 qui rentrent au paradis. Hein? Ukasha, il a dit quoi? Dullali an yajalani minhum. Il a dit demande à Allah qu'il me rende parmi eux. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit ne me demande pas. Qala anta minhum. Vous voyez? Qala anta minhum. Que plusieurs fois, c'est arrivé que les Sahaba ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des doigts. Comme cette femme, par exemple, qui avait des crises au point de tomber dans les pommes et qu'elle se déshabillait, cette femme noire, elle disait quoi ? Dullah an yu'afiyani. Il lui a dit quoi ? Si tu veux, je demande à Allah qu'il te guérisse, mais si jamais tu patientes, cela est meilleur pour toi. Elle dit alors je patienterai, mais demande à Allah subhanahu wa ta'ala que je ne me déshabille pas, c'est-à-dire que mes vêtements ne se soulèvent pas parce que j'ai des crises. Qu'est-ce qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? De faire les doigts pour elle. Cela est permis. Mais il ne faut pas que cela soit une coutume de demander d'aller voir les gens, invoque Allah pour moi ceci, demande pour moi Allah cela, ainsi de suite. Fais-le, cela est permis, mais sans ilhal, c'est-à-dire sans importuner et sans insister. Non. Attendez, ensuite il finit en disant Walin sta'adani la uizanna, que si jamais il cherchait refuge auprès de moi, alors je l'abriterai. فعليك أن تستعيذ بالله من شرور الإنس والجن والله يعيذك. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال تعالى: إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Donc il dit qu'il te revient de demander refuge, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du mal des gens et des djinns. Et ça c'est aussi un verset, surat al-Nas. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَى آخِرِهِ. Et c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Et dans le sens, il dit que Allah défend certes ceux qui ont cru, et Allah n'aime pas tout traître ingrat, mécréant. Donc le fait que tu es ingrat, tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne demandes rien du tout. Tu t'en remets que à toi-même. Et il dit, dans le sens, que certes, mon allié, c'est Allah, celui qui a descendu le livre, et que lui prend comme allié les croyants. Hein, que mon allié, c'est Allah, celui qui a fait descendre le livre, et qu'il s'allie aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala prend les croyants comme alliés. Donc de là, bien comprendre ce hadith qui est immense. Qui appelle à quoi? En premier lieu, à ne pas nuire aux croyants pieux. Déjà à la base, on ne doit nuire à personne, quoi qu'il en soit. Mais qui plus est, cela est encore plus grave envers un croyant pieux. Car cela mène à quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala te déclare la guerre? Et que si Allah te déclare la guerre, il n'y aura personne pour te protéger. Que les choses les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont l'application de ses actes obligatoires, les fara'id. Et que par la suite, que l'amour d'Allah augmente par l'application des actes surrogatoires à tel point qu'il va te réformer, t'ajuster dans tes faits et gestes. Tout ce que tu feras t'amènera au bien. Ben, tu ne seras pas infaillible de commettre des erreurs des fois, mais on va dire que la plupart de tes actes t'amèneront au bien. Tu diras de bonnes paroles, tu iras vers de bons endroits, tu regarderas de bonnes choses, et ainsi de suite. Et que cela amène à son amour. D'accord? Et dans son amour, parmi les bonnes suites de son amour, que si jamais tu lui demandes, il te donnera. Et que si jamais tu demandes refuge auprès de lui, tu recherches refuge auprès de lui, il t'abritera. Donc que demander le plus après cela? Donc appliquer les obligations en premier lieu. D'accord? Et par cela, protéger le tout par les actes surrogatoires. Naam. Wa bi dhalika naktafi wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin.